En partenariat avec le journal Le Ravi, la Grenouille crèche en Avignon et vous propose un état des lieux du paysage culturel dans la Cité des Papes. Fille du pont où l'on danse tous en rond et de la forteresse pontificale, ce n'est pas du patrimoine historique dont nous allons parler, mais des formes actuelles de la création. Dans ce registre, la notoriété nationale et internationale d'Avignon est assurée par l'incontournable, l'inévitable festival de théâtre qui, chaque année, en juillet, suscite une intense migration des théâtreux et des badauds. Le in, le off et éventuellement le out, trois regards sur la place du festival dans la vie culturelle d'Avignon, en compagnie de Florence Archambault, co-directrice du in, de Frédéric Mull, représentant l'association Avignon Festival et Compagnie, qui fédère les théâtres et compagnies du OFF, et de Mustapha Awar, directeur de la Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine et programmateur de l'anti-festival Nous n'irons pas en Avignon. On commence par le IN avec Hortense Archambault. Hortense Archambault, bonjour.
Bonjour.
Vous co-dirigez le Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier depuis quelques années déjà. Un festival qui, j'imagine, occupe une place importante dans la vie culturelle d'Avignon. Comment est-ce que vous décririez la relation entre le festival et la ville aujourd'hui ?
Alors, elle est très complexe et très forte, je crois, cette relation-là. Peut-être qu'il faut remonter un peu dans l'histoire en disant qu'effectivement... Le Festival d'Avignon qui a eu cet été sa 62e édition, donc ça fait 62 ans qu'il y a une histoire très très forte entre la ville et son festival. Je crois qu'un festival a forcément une relation très forte avec l'endroit où il est, d'autant plus peut-être que le Festival d'Avignon a au fur et à mesure de son développement fini par occuper l'entièreté de la ville, en tout cas tout l'intramuros, tout ce qui est à l'intérieur des remparts, et que la ville sert d'écrin comme une sorte de théâtre avec des scènes multiples au festival qui lui-même la transforme. Donc il y a quelque chose comme ça de très étonnant qui se passe et qui, je pense, contribue à faire que le Festival d'Avignon est si particulier. Alors évidemment, c'est une relation avec l'architecture de la ville qui est très spécifique. Les palais, les cloîtres, les chapelles, les gymnases, tous les lieux possibles sont en fait investis par le festival, puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de grands théâtres permanents à Avignon. Il y a un opéra-théâtre municipal, il y a une salle qui s'appelle la salle Benoît XII, qui est aussi à l'année un théâtre. Mais sinon, dans les lieux occupés par le Festival d'Avignon, il y a très peu de théâtres. Et puis ensuite, autour du festival, il y a le OFF, qui s'est développé depuis les années 60, avec d'abord des compagnies qui vivaient et travaillaient à Avignon, comme André Benedetto, qui a commencé dans le lieu qu'il avait installé, qui était son théâtre à Avignon, à présenter ses spectacles aussi pendant le festival. Et progressivement, l'histoire conjointe du Festival d'Avignon et du OFF ont fait que je pense que c'est la ville aux 1000 théâtres. Enfin, en tout cas, il y a des théâtres ici plus que partout ailleurs, en tout cas rapporté au nombre d'habitants, ou peut-être au mètre carré. La plupart d'entre eux sont des tout petits théâtres, hein, c'est-à-dire ce sont des lieux petits en surface, bien entendu, c'est-à-dire avec accueillant une cinquantaine ou une centaine de spectateurs. Il y a un certain nombre de lieux qui sont là toute l'année, et puis il y a un certain nombre de lieux qui sont, comme pour les lieux du festival, transformés en théâtre. Avec les habitants, je crois aussi qu'il y a une histoire très forte du festival, qui a eu... des moments plus ou moins forts, et comme toute histoire de passion, je crois qu'il y a des allers-retours qui se font. Une histoire très forte, parce que là aussi, le festival, il naît en 47, donc juste après-guerre, dans un endroit à Avignon, enfin dans la ville d'Avignon, qui a pas mal, qui a été bombardé en partie, qui a été, comme la plupart des villes de France aussi, des endroits de déchirure, en fait, juste après la fin de la guerre, entre la résistance... les collaborateurs, et que finalement cet endroit de déchirure 47, quand le festival démarre, en fait, il a lieu dans une chose qui s'appelait la Semaine d'art, qui était une incroyable exposition d'art contemporain dans la chapelle du Palais des Papes, qui a exposé tous les plus grands peintres contemporains et les plus grands sculpteurs. Et puis, tout à coup, il y a eu cette idée de faire aussi du théâtre. Et cette idée de faire du théâtre, c'était aussi sûrement pour réfléchir à plus jamais ça, finalement. Comment la fréquentation des œuvres d'art et de l'esprit permettent finalement de recoudre des blessures. Je pense que ça a marqué profondément et l'histoire du festival et l'histoire du festival dans cette ville et le lien avec les habitants. Parce que forcément, le premier public, ça a été les habitants d'Avignon. Ça a été cette formidable utopie de Villard de réfléchir à un théâtre populaire. Donc, quand il disait théâtre populaire, c'était réfléchir à l'accessibilité, le fait d'être en plein air, enfin bon, tout ça. Je pense que ça a induit un comportement festivalier qui, au départ, était fait majoritairement des habitants d'Avignon. Ensuite, le lien du festival et de la ville a toujours été forcément très fort. En même temps, au gré des programmations, il y a une sorte de nostalgie aussi qui a pu se développer chez une partie des habitants d'Avignon. C'est plus comme avant. Ah, avant, les comédiens venaient dormir à la maison. Enfin, il y a toute une mythologie. Tout le monde a dansé avec Gérard Philippe. Tout le monde a joué au foot avec Jean Villard. Et c'est merveilleux parce qu'effectivement, peut-être que tout le monde a des histoires incroyables à raconter dans son lien avec le festival. Même une chose qui est étonnante, c'est que quand on habite à Avignon, on ne dit jamais pendant le mois de juillet, on dit pendant le festival. Donc presque le mot juillet a disparu. Il y a quelque chose qui est totalement intégré dans la vie de la ville, en fait.
Donc, mais aujourd'hui, les festivaliers, ce sont bien sûr des Avignonnais, mais pas uniquement. Même l'essentiel des festivaliers viennent d'ailleurs qu'Avignon.
Oui, mais depuis assez longtemps, en fait, puisque le festival a été modifié en 60, mais même dès le départ, débarquaient, en fait, de Paris et de toutes les régions de France, des gens qui venaient de partout pour découvrir cette forme théâtrale très nouvelle qu'avait mis en place Villard. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait comme une nostalgie qui était le sentiment que le festival n'appartenait plus aux Avignonnais, qui quand même ont un lien très fort avec le festival et considèrent que c'est leur festival. Même si, évidemment, ils représentent, les gens de la région, c'est-à-dire 100 km autour d'Avignon, représentent à peu près 30 à 35% du public. Donc c'est quand même quelque chose. Mais les Avignonnais, c'est leur festival, ils sont très attachés à ça. Je crois que le fait, quand nous avons été nommés pour diriger le festival avec Vincent Baudrier, qu'on s'installe à Avignon, c'est-à-dire qu'on décide de diriger le festival depuis Avignon, alors qu'avant, il y a toujours eu des bureaux à Avignon, mais la direction artistique et la production étaient installées depuis Paris. Le fait de s'installer ici à Avignon a modifié le rapport entre les habitants et le festival et nous a permis, nous, de développer un certain nombre de choses à destination des habitants, comme des rencontres qu'on fait tous les mois avec des artistes de la prochaine programmation. Donc il y a une sorte de lien privilégié sur « on est en train de vous raconter le festival qu'on est en train de préparer ». Qui nous a paru d'autant plus important que effectivement les formes esthétiques qu'on présente au festival n'ont pas forcément d'autres lieux d'expression à Avignon pendant le reste de l'année. Il y a l'opéra théâtre qui est plus sur une ligne de programmation en dehors de l'opéra, sur du théâtre de boulevard, de divertissement. Et puis il y a les petites salles dont j'ai parlé qui font qui montre un travail parfois formidable, parfois moins, mais de compagnies ici qui travaillent sur des formats plus petits.
Sur la relation entre le festival et la municipalité ?
Alors la relation entre le festival et la municipalité, elle a toujours été dans l'histoire aussi passionnelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le festival a totalement besoin de la ville pour fonctionner, parce que les lieux dans lesquels on est, c'est des lieux de la ville. La ville finance le festival, même si...
À quelle hauteur ?
En fait, le festival est subventionné à 60%. Il y a 40% de recettes propres. Et dans ces 60%, il y a 60% qui proviennent de l'État, ce qui est très rare pour les festivals. D'habitude, c'est les municipalités qui sont les premiers subventionneurs. La ville à hauteur de 20%, le département 11% et la région 9%. Mais c'est quand même pour une ville qui est finalement de taille très moyenne par rapport à ce grand et gros festival, on va dire, un effort très important. Alors, je pense que les relations avec la ville et d'Avignon et la municipalité se sont améliorées du fait de notre installation ici. Notamment, on a toujours eu un fort soutien, y compris dans la tourmente de 2005, de Marie-Josée Roy, considérant très clairement que nous avions une grande liberté de programmation, qu'on avait assumé nos choix, mais que pour elle, un festival qui dérangeait, qui n'était pas consensuel, qui pouvait provoquer, qui pouvait faire débat, c'était une chose qui lui paraissait normale, inscrite dans l'histoire du festival. Et je pense que c'est suffisamment rare pour le souligner, c'est-à-dire d'avoir effectivement des élus, mais les élus qui entouraient le festival, que ce soit la région et le département, étaient sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire de dire finalement, il faut effectivement que ce soit un endroit du risque, de la création, qui fait appel à la curiosité, à l'intelligence du public.
Est-ce que vous avez une idée de l'impact économique qu'a le festival sur la ville ?
Oui, il est très important. En fait, il y a des études qui ont été faites, dont je me souviens plus tout à fait les chiffres, mais à peu près, on peut dire, la ville investit 1 euro dans le festival et c'est x15. C'est très important. Retombées, essentiellement restauration. La plupart des commerçants font un énorme mois au mois de juillet. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est très très important. Et puis, ne serait-ce que le festival, c'est-à-dire que, en gros, la ville met 1,5 million de subventions. Notre budget est entre 10 et 11 millions, qui sont essentiellement dépensés ici. Sauf, évidemment, pour l'artistique, ou qui représente à peu près plus d'un tiers du budget, qui sont des achats de compagnies ou des engagements d'artistes qui viennent pas d'Avignon. On va dire le reste, que ce soit forcément même les gens qui travaillent ici que pendant le mois de juillet, dépensent une partie de leur salaire ici. Donc tout ça est effectivement très important. Ça l'a été très fortement dit et remarqué encore plus, de façon plus criante en 2003, l'année de l'annulation du festival, où effectivement, tout à coup, je crois qu'il y avait vraiment une double sidération, en fait, une sidération économique. Et puis aussi, tout à coup, les habitants se sont aussi rendus compte à quel point ils étaient attachés au festival, même s'ils n'y allaient pas. Et ça, c'est intéressant.
Revenir juste un instant sur les lieux du festival que vous avez un peu décrit tout à l'heure, essentiellement des lieux situés intramuros, dans les murs de la Cité des Papes. Mais est-ce que le festival travaille aussi avec d'autres quartiers de la ville ? Je pense peut-être plus particulièrement à des cités ou à des quartiers pas forcément très favorisés.
Donc on a des lieux aussi extramuros. Si vous voulez, il y a une double question. Moi, je ne crois pas que la question du travail avec les quartiers va se solutionner par l'implantation d'un lieu dans un quartier. Ou alors, il faudrait que ça soit un lieu permanent à l'année avec un travail. Il est arrivé que le festival investisse pour un projet particulier parce qu'un artiste avait besoin de tel ou tel type de d'atmosphère, on va dire, un quartier ou un lieu précis. Je pense notamment à la dernière expérience, c'était celle de Peter Brook, qui a monté Susie Bonzi est mort, qui se passe dans les townships de l'Afrique du Sud, et qui, lui, voulait très clairement être dans un quartier d'Avignon, et il voulait trouver une école dans un des quartiers d'Avignon. Donc on a visité toutes les écoles de quartier d'Avignon, et puis il a jeté son dévolu sur une école, les profs ont accepté, et du coup on a fait un travail là-dessus, avec la MJC du coin. Enfin, tout ça s'est construit, mais je crois qu'au départ, c'est juste quand il y a un vrai projet artistique d'abord. Alors après, travailler avec les quartiers, c'est aussi une question du public. Finalement, c'est comment on essaye de faire découvrir le festival et la cour d'honneur et le théâtre à des gens qui, comme ça, n'iraient pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas économiquement, soit parce que ça n'est pas dans leur tradition, parce qu'ils n'en auraient pas l'idée, parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Donc là, c'est un autre travail, c'est un travail qu'on développe, qui est plus un travail de fourmi, mais comme beaucoup de lieux culturels le font, je crois, c'est d'aller chercher presque un par un des gens, en passant toujours là aussi par des relais, parce qu'il y a Le festival est événementiel, donc il est là une fois par an, même s'il est là chaque année. Mais il y a des gens qui, toute l'année, travaillent dans les quartiers, donc il faut s'appuyer sur eux et dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce que des gens peuvent venir voir des spectacles? Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui n'ont jamais été au théâtre ou qui n'ont jamais été au festival, si vous voulez, ils ont beaucoup plus envie d'aller dans la cour d'honneur du Palais des Papes parce que c'est le grand lieu et qu'ils le savent très bien, que d'aller voir un truc qui se passerait au pied de leur immeuble, quoi.
Parlons un peu du festival off. Quel regard vous portez sur l'évolution de cette partie off du festival en 2008? Plus de 900 spectacles, je crois, programmés. Est-ce que vous le voyez comme un développement un peu anthropique?
C'est assez compliqué, la question du off, dans le sens où c'est très révélateur aussi d'une situation française, en fait. C'est-à-dire que finalement, alors est-ce que ça veut dire que le théâtre va bien ou est-ce que ça veut dire que le théâtre va mal? On peut avoir les deux versions. Ça veut dire que le théâtre va bien parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui créent et qui ont besoin de montrer ce qu'ils créent. Parce que le off, c'est d'abord avant tout ça. C'est-à-dire que c'est des artistes qui peuvent s'adresser directement à du public sans passer par les fourches codines d'un programmateur la plupart du temps. Et donc
C'est aussi un moment de recherche des programmateurs.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes un artiste et que vous voulez vous montrer en public, vous devez passer dans une programmation. Ou alors vous avez votre propre théâtre, mais sinon vous devez être programmé par quelqu'un. Dans le off, non. Vous pouvez être programmé par quelqu'un parce qu'il y a certains théâtres dans le off, mais il y a la plupart du temps des endroits que vous pouvez louer, et donc vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de passer par la médiation de quelqu'un. Donc on peut se dire, c'est formidable, ça veut dire que le théâtre va bien. On peut aussi se dire, c'est terrible, le théâtre va très mal, parce que les gens n'ont pas d'endroit où se produire, tellement pas d'endroit où se produire, qu'ils sont obligés de venir dans le off, et donc de louer des lieux, et de parfois s'endetter, etc. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les deux facettes, quand on réfléchit sur la question du off. De la même manière que, vous avez raison, c'est un magnifique marché du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui viennent ici faire leur saison, ce qu'on appelle, donc acheter des spectacles, découvrir des acteurs, découvrir des artistes, découvrir des auteurs. C'est aussi, en même temps, une chose très difficile parce que on s'endette et que, en gros, si ça marche pas, on peut être presque en faillite à la fin du festival. Donc, c'est exactement le révélateur de la situation, je pense, du théâtre en France. C'est formidable d'avoir 900 pièces, sauf que pour avoir 900 pièces, comme à peu près, il y a à peu près toujours le même nombre de théâtres, il y a un vrai risque que les conditions du off formatent artistiquement. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir de plus en plus de pièces avec très peu de comédiens parce que ça coûte moins cher, parce que plus il y a de comédiens, plus ça coûte cher. Vous allez avoir des pièces qui ont toutes la même durée parce que, en fait, les créneaux qu'on loue ont 2 heures. Donc, en fait, le temps que vous montiez votre décor, vous jouiez, vous faites applaudir, vous démontez, il faut des pièces d'1 heure, 1 heure et quart. Et vous avez besoin d'avoir des décors très légers parce que la même chose, vous devez tout démonter, etc. Donc, si vous voulez, les conditions sont en train de formater un peu le off. Donc, il y a presque une sorte de un risque, on va dire, de format off. Or, la richesse du off, c'est justement son extraordinaire diversité, c'est justement son extraordinaire liberté, c'est justement le fait qu'il y a plein de gens très différents qui font des choses très différentes. Mais je pense que personne ne peut réformer le off, à part lui-même, d'autant plus qu'il faut rester prodigieusement attaché à cette idée-là de la grande liberté du off, qui est son existence, quoi, sa spécificité.
Parlons maintenant du IN, dont vous avez la charge. Un festival qui a évidemment une dimension européenne et internationale très affirmée. Est-ce que cette dimension européenne, internationale, est aussi tournée vers le sud et vers les productions de dramaturges, d'auteurs, de metteurs en scène qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée et dont les conditions de travail là-bas sont pas toujours très faciles? Je fais là écho à la parole de Ahmed El Attar, metteur en scène égyptien, qui regrettait un petit peu que le festival ait mis très longtemps à programmer peut-être des spectacles qui viennent du Maghreb, du Moyen-Orient, de l'Orient. Je crois que ça va peut-être changer l'année prochaine, puisque je crois que l'artiste invité est Wadji Mouawad, qui vient du Liban. C'est un signe?
Alors, il y a plein de choses à répondre dans cette question. D'une part, une première chose, c'est qu'on s'est toujours refusé à imaginer des artistes comme des porte-drapeaux ou à imaginer qu'il faudrait que le festival se transforme en Jeux olympiques du spectacle avec un artiste de chaque nationalité et que finalement, autant il faut défendre partout la liberté des artistes et les choix qu'ils font et la justesse, ou non, mais en tout cas l'absolue liberté nécessaire à la création. Autant je crois aussi qu'il faut affirmer et assumer un regard très subjectif sur une programmation et de se dire que finalement, si on était dans des espèces de logiques de discrimination positive, une question souvent récurrente aussi qui nous est posée, c'est il n'y a pas assez de femmes ou il n'y a pas beaucoup de femmes mettant en scène. C'est vrai, il faut être attentif, il faut réfléchir, mais je pense qu'on a raison de se dire qu'on ne va jamais dans la discrimination positive en se disant « bon, bah, on va prendre un artiste parce que finalement il va nous augmenter notre quota de soit de femmes, soit de pauvres, soit de... » Je caricature, hein, mais voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce qui est intéressant dans la remarque dont vous faites le relais, c'est-à-dire, à un moment donné, on va se dire, cette région-là du monde nous intéresse pour X raisons, parce qu'on s'est raconté quelque chose dans notre manière de construire la programmation du festival, chaque année autour d'un artiste associé. Et effectivement, à ce moment-là, on va faire un travail de prospection, et c'est très long. Et je crois que c'est important aussi de revendiquer ça, cette longueur, cette importance de la durée dans la relation qui s'établit aussi entre un festival et un artiste. Et... Alors ensuite, pour être beaucoup plus clair sur la question, effectivement, c'est absolument important pour comprendre le monde dans lequel on vit de se tourner vers le Moyen-Orient, de se tourner vers le Maghreb, de se tourner vers cet immense continent africain. Donc l'année prochaine, Wajdi Mouawad, qui est l'artiste associé, c'est-à-dire l'artiste avec lequel, à partir duquel, en fait, on construit une édition du festival. Donc Wajdi Mouawad, il a une histoire très particulière, puisqu'il est Libanais. Il est parti, ses parents sont partis avec lui sous le bras quand il avait 7 ans du Liban pendant la guerre. Et peut-être que c'est là-dessus qu'on va réfléchir, et que peut-être qu'avec ce regard-là, les questions entre le nord et le sud de la Méditerranée peuvent se poser. Si on y met du mouvement, tout à coup, les choses vont beaucoup mieux.
Pour conclure cet entretien, il existe en région parisienne une programmation parallèle à la vôtre qui s'intitule « Nous n'irons pas en Avignon ». Comment est-ce que vous voyez ça? Ça vous amuse? Ça vous agace un peu? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes en rapport avec eux?
Je ne sais pas si ça nous amuse ou si ça nous agace. Avignon, c'est symbolique. Donc de toute façon, tout le monde a une idée sur Avignon. Tout le monde sait très bien ce qu'Avignon est, ce qu'Avignon devrait être. Tout le monde sait très bien ce qu'Avignon est intimement, ce que les souvenirs qu'on a d'Avignon, ou même ceux qui n'y sont pas allés finalement. Donc je crois que c'est un peu la rançon d'être... à cet endroit-là, presque d'appartenir à la mémoire collective. Et je pense qu'Avignon s'est fait de tout ça, de toute cette constitution de la mémoire, y compris, sûrement, le Festival d'Avignon est fait de cette équipe qui n'ira jamais à Avignon.
Vous écoutiez Hortense Archambault, co-directrice du IN. Après le IN, le OUT. Quelques mots par téléphone de ceux qui n'iront pas en Avignon. Mustapha Aouar, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la gare au théâtre à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, une ancienne halle de la SNCF, outil de rencontre et de création depuis 1996. Et... parmi les rendez-vous de cette gare au théâtre, nous n'irons pas en Avignon. C'est une programmation en juillet qui fait l'objet ou le prétexte de cette rencontre téléphonique. Nous n'irons pas en Avignon, c'est la 10e édition en 2008 avec 33 propositions ou spectacles. Peut-être quelques mots sur ces propositions, sur ce qu'on rencontre dans cette programmation.
Eh bien, c'est une programmation très éclectique. Effectivement, ça s'appelle Gare au Théâtre parce que je suis metteur en scène et que ce lieu a été créé par une compagnie. C'est la chose que je ferais mieux, mais elle s'est étendue à la danse, au théâtre, à la vidéo, et à marionnettes, etc. Voilà. Au spectacle jeune public et tout le petit quanti. Ça dure un mois. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur deux éditions, ça a duré un mois et demi. On avait tenté l'aventure d'entrer dans le mois d'août comme ça jusqu'au 15 août. Oui.
Lors de la première de Nous n'irons pas en Avignon, c'était en 1998, je crois. L'idée, c'était quoi? C'était une alternative? C'était une critique? C'était un pied de nez? C'était quoi?
C'est en 99 en fait, à l'été 99. Et à l'été 98, on a failli mettre la clé sous la porte. J'étais tout seul dans cette gare, mes collègues étaient partis, je faisais face à cette grande halle et je m'étais fait la promesse un peu secrète de continuer à fonctionner au mois d'août si on se sortait de ce mauvais pas. Parce que je m'étais posé la question, à savoir où sont les artistes, comme pour la plupart, ils étaient à Avignon. Alors j'ai fait cette proposition à la rentrée à un certain nombre de compagnies, et je leur ai proposé de travailler une manifestation, un point de rencontre qui s'appellerait « Nous n'irons pas à Avignon », et ça a soulevé les enthousiasmes. Et on peut dire que les deux premières éditions se sont faites autour d'un noyau d'une dizaine de compagnies fermement déterminées, dans la joie et la bonne humeur. C'était quelque chose qui ressemblait à un festival autogéré auquel se sont ajoutées d'autres compagnies. On était 30 ou 35 déjà la première année.
Nous n'irons pas en Avignon, c'est un contre-festival qui du coup attire un petit peu de la notoriété du festival qu'il critique. Alors cette programmation, c'est un festival, un anti-festival, ou est-ce que c'est un véritable projet?
C'est devenu un véritable projet, ça a d'abord été un coup de gueule, c'est-à-dire que la plupart des compagnies beaucoup de compagnies étaient plus radicales que moi, et on avait très nettement marre de ces conditions détestables que nous, artistes, nous étions créés, notamment au festival OFF d'Avignon, cette auto-exploitation, cette concurrence effrénée, cette économie dérégulée et sauvage, c'est nous qui l'avions bâti. Et donc l'idée, c'était d'abandonner la concurrence pour retrouver l'émulation joyeuse d'une rencontre faite de différents points de vue contradictoires, et c'est ce qui nous plaisait, c'est ce qui nous faisait bouger. Voilà, ça a été le début. Et au fur et à mesure, on a tenté plusieurs expériences. À la troisième édition, on a tenté tenter à nouveau le nombre de compagnies en travaillant sur un mois et demi de manifestations. Et là, automatiquement, on s'est mis à reproduire les défauts du festival à d'Avignon, à savoir chacun se mettant à coller inconsidérément des affiches, ou les compagnies les plus nantis se faisant des documents quadricromis, et les autres sur du papier saumon un peu palo. Puis après, il y a eu d'autres étapes, notamment cette fameuse édition de 2003 qui a correspondu à la grève des intermittents et à l'annulation du festival d'Avignon.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2003 chez vous?
Bah, ça a été une charnière, c'est-à-dire que là, sur cet été-là, nous sortions de l'année 2002. L'année 2002, c'était l'année des nouveaux territoires de l'art, d'une reconnaissance du niveau du ministère, et ça a été aussi, avril 2002, une sorte de réponse au 11 septembre 2001, en tout cas en France, et ceux que je ne veux pas nommer, présents au deuxième tour. Et donc ça a été une sorte de catastrophe, parce qu'un retour très fort de la droite et un abandon d'une reconnaissance des nouveaux territoires de l'art dans lesquels nous étions présents, et même très présents. Donc on a failli encore une fois en fin 2002 mettre la clé sous la porte, et plutôt que de baisser le nez, eh bien, on s'est dit, eh ben, on va se faire plaisir et la prochaine édition 2003, ce sera une année qui s'appelle, une édition qui s'appellera Tous en Afrique. Et à cette occasion-là, nous avons accueilli une quarantaine d'artistes africains, non pas pour donner une ou deux représentations, mais pour des résidences d'un mois à un mois et demi. Les intermittents qui demandaient aux artistes africains de venir les rejoindre et de soutenir dans leur grève, et de soutenir ce statut. J'ai été très étonné, très agréablement étonné de la réponse des artistes. Et je me souviens de l'un d'entre eux, Fargas, un Ivoirien mettant en scène auteur, qui a dit quelque chose comme ça. Si vous deviez perdre le statut de l'intermittent, ce serait pour nous comme de perdre le paradis, c'est-à-dire toute espérance possible. J'ai trouvé ça d'une générosité incroyable. Voilà.
Pour vous, quel rôle exerce le Festival d'Avignon aujourd'hui? Quel rôle ou fonction entre le IN et le OFF d'ailleurs? Est-ce que c'est une vitrine? Est-ce que c'est un marché?
Ben, c'est quelque chose qui est un peu lointain. C'est la ville des papes. Il paraît que tous les chemins y mènent. Et nous en avons choisi d'autres. Ça existe. Sur les premiers temps, nous n'irons pas à Avignon. J'en avais parlé au directeur du Avignon Hymne de l'époque, qui m'avait dit du haut de sa grande stature, bah, vous savez, je rencontre tellement de metteurs en scène malheureux dans les rues d'Avignon. Toute alternative est bonne à prendre. Et puis quand au directeur, enfin entre guillemets, du festival OFF de l'époque, avait regardé ça avec sympathie et voilà. Donc ça existe, ça fait partie de notre histoire, de l'histoire du théâtre, l'histoire contemporaine. J'ai beaucoup de sympathie pour son fondateur. Voilà, c'est une immense foire, c'est le plus gros festival et je pense que il est bon de faire des choses ailleurs, parce que moi je crois à la proximité et je pense que les lieux de parole doivent se multiplier, surtout aujourd'hui.
Est-ce que vous-même vous êtes en rapport avec le Festival d'Avignon d'une manière ou d'une autre?
Directement, nous entretenons des relations. Il y a des liens, quoi dire d'autre. Je pense que le jour où j'irai à Avignon, je pense que des choses auront changé, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher, quand on parle d'Avignon, on ne parle que des théâtreux. Les théâtreux n'y sont là que, ou les artistes n'y sont là, grosso modo, hein, je vais simplifier, un mois de l'année derrière à Avignon, il y a d'abord les Avignonnais, et je trouve que leur attitude n'est pas juste vis-à-vis des artistes.
On écoutait Mustapha Awar, programmateur de Nous n'irons pas en Avignon, en région parisienne. In, Out et maintenant le Off, quantitativement la part la plus importante et la plus visible du Festival d'Avignon. Une multitude de compagnies et de lieux qui essayent de se fédérer dans une association, Avignon Festival et Compagnie. Fred Mull, bonjour. Vous représentez l'association Avignon Festival et Compagnie, dont vous êtes, je crois, le vice-président. Est-ce que cette association est, en tant que telle, représentative du Festival OFF d'Avignon?
Ah oui, j'espère bien qu'elle est représentative. Déjà parce que depuis sa création, c'est-à-dire depuis 3 ans, elle est paritaire. C'est-à-dire qu'il y a 8 théâtres et 8 compagnies qui sont au conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas avant. On avait un peu une nébuleuse, et puis bon, des gens qui avaient fait le travail pour un peu cadrer ce OFF, mais nous on a décidé de le cadrer encore plus, et surtout qu'on soit paritaire, aussi bien la voix des théâtres que la voix des compagnies, c'est très important.
Qu'est-ce que vous entendez par cadrer le off ?
Et cadrer le off, c'est aussi le réformer, c'est tout ça, c'est se dire à un moment donné, est-ce que on est arrivé à 1000 spectacles cette année ? Est-ce qu'on va à combien on va aller ? À se dire, il y a beaucoup de compagnies amateurs qui font le off. Est-ce que c'est un festival professionnel ? Oui, c'est un festival professionnel, donc il faut aussi cadrer un petit peu la venue du théâtre amateur. Il faut que les amateurs soient présents au Festival d'Avignon, parce que le Festival d'Avignon off, représente toutes les composantes du spectacle vivant et les amateurs en font, mais il faut mieux le cadrer, et aussi avec les théâtres, parce que je sais quand même qu'il y a, et ça se joue comme ça aussi au conseil d'administration, quelques théâtres indélicats, qui en général ne sont pas au conseil d'administration, je tiens à le préciser, indélicats qui font passer des amateurs pour de grands professionnels.
Une représentativité qui a néanmoins été un peu critiquée à l'occasion de la saison 2007 et de cette saison par une autre association, Plateau Pro. Alors, peut-être quelques mots sur cette dissension au sein du OFF.
Alors, il n'y a pas association Plateau Pro, ça n'existe pas. C'est une association qui s'appelle Avignon OFF, qui a été mise en liquidation judiciaire il y a 3 ans. Donc ça, c'est très embêtant. Il n'y a pas de problème. Cette association n'existe pas. En plus, elle nous a intenté un procès et elle a perdu 2 fois. Elle a perdu sur le tribunal de Marseille, et puis elle a voulu faire appel. Elle n'a pas donné les pièces à l'avocat, donc évidemment c'est le jugement de Marseille qui fait appel, et même ils nous doivent des dommages d'intérêt. Bon, je pense qu'on ne va peut-être pas le réclamer. Bon.
Quel était l'objet du litige ?
L'objet du litige, c'est une concurrence, une pseudo-concurrence. On ne comprend pas, il y a une pseudo-concurrence par rapport à quoi ? Le litige, il portait sur une clause que les théâtres faisaient signer aux compagnies, et qu'évidemment nous, Collège et compagnie, nous avons voté parce qu'on pensait que c'était important de sauver ça, c'est-à-dire cette clause de solidarité, de dire voilà, si vous signez avec Avignon Festival et compagnie, vous ne pouvez pas signer avec quelqu'un d'autre.
Mais c'était un peu... Solidarité ou exclusivité ?
Non, c'est la solidarité. Bien sûr, on peut croire que c'est l'exclusivité, mais c'est la solidarité par rapport à cette association que André Benedetto, fondateur du OFF en 1966, a voulu pour sauver le Festival OFF, autrement il était en train de mourir.
Alors tu viens de l'évoquer, un festival off fondé par André Benedetto. Peut-être quelques mots sur l'histoire du off.
Oui, moi j'ai pas trop l'historique, mais enfin si je sais quand même qu'André à un moment donné a vu tous les gens jouer autour de lui, et puis il s'est dit en 66 pourquoi pas moi. Donc il s'est mis à jouer aussi. Il a inventé en somme de jouer lui dans son propre théâtre en Avignon, en dehors de la sélection officielle que faisaient Jean Villard et Paul Puot à l'époque. Et petit à petit, les choses se sont mises à grossir. D'autres gens sont venus jusqu'au dans les années 80. Dans les années 80, il y avait peut-être 50 compagnies qui jouaient. Et puis, un garçon qui avait une compagnie, d'ailleurs, qui s'appelait Alain Léonard, a décidé un petit peu d'organiser cette chose avec le journal du OFF.
En cette année 2008, un millier à peu près de compagnies participaient à ce festival OFF dans de très nombreux lieux. Peut-être quelques mots sur les lieux qui accueillent le OFF.
Ouais, voilà, donc il y a une centaine de lieux. En général, ce sont tous, puisque là, bon, on a quand même fait un petit peu des études par rapport à ça, ce sont des théâtres. On dit lieu, mais quand même, ce sont des théâtres. Et nous, d'ailleurs, on a un collège théâtre et un collège compagnie. On n'a pas un collège lieu. C'est important pour nous. Et même, d'ailleurs, je l'avais dit à Hortense Charbon, il y a un moment qu'elle me faisait la réflexion sur les lieux. Et moi, je dis non, ce sont des théâtres. On a évidemment quelques lieux sur lesquels, nous, on est très sceptiques, sur des lieux très commerciaux, dont je tairai le nom, mais tout le monde se reconnaîtra dans des lieux qui, par exemple, font passer des comiques, des choses très très lourdes, ou par exemple la Provence se permet évidemment de dire, oui, un tel a fait déjà 3 millions d'entrées, mais c'est des grosses productions parisiennes. Le OFF, c'est pas ça. Le OFF, c'est pas que ça. Le OFF, on défend nous, sur Avignon Festival et compagnie, c'est un OFF de création. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé une aide par rapport à ça, puisqu'il y a 10 compagnies qui sont aidées par rapport à ça chaque année, grâce aux cartes off. Et on est donc dans un off de création, même si ça existe, il faut qu'on y fasse très attention. Et je dirais qu'il y a 3/3 sur Avignon au niveau compagnie, donc aussi au niveau des lieux. C'est-à-dire qu'on a un tiers de spectacles, de productions qui viennent essentiellement de Paris, c'est pour ça que c'est très compliqué le off avec l'histoire avec Marseille. On a un tiers de personnes entre deux, soit des amateurs, soit des gens qui rentrent dans le métier, tout ça. Alors les gens qui rentrent dans le métier, il faut faire attention, il y a peut-être des jeunes, ça, faudra penser au parrainage plus tard, etc., des choses comme ça, si on cadre encore plus. Et puis un tiers de gens repérés par les collectivités territoriales, plus beaucoup par l'État, puisque de toute façon l'État est absent de plus en plus, et voilà. Mais il y a aussi, je pense, ce qui est important par rapport au rapport que nous, compagnie, nous avons de voir, on a avec les lieux, c'est de mettre en place, enfin, cette charte du off. On sera un petit peu très, très observateur, je veux dire très pointu sur certaines choses que les théâtres doivent aux compagnies.
Quelle est la fonction du off pour une compagnie qui y participe ? Est-ce que c'est une vitrine ? Est-ce que c'est un marché ?
Là, c'est les deux, c'est plus que ça même. C'est un marché et il faut le reconnaître en tant que tel. Parce que quand j'entends des gens qui n'iront pas à Avignon, j'ai envie de leur répondre, bah, vous ne vendrez pas alors dans ces cas-là. Parce que les compagnies, bon, alors il ne faut pas faire de moi ce que je dis souvent aux jeunes compagnies, je le dis même à travers ma vice-présidente, il ne faut pas faire de coups à Avignon. J'ai même connu des copains qui faisaient des coups, ils se sont ramassés. Non, donc Avignon, on peut installer une compagnie sur Avignon. Je connais beaucoup de compagnies qui reviennent chaque année, on peut installer. C'est comme un territoire comme un autre. Hein. Moi, je travaille beaucoup en territoire, que ce soit ici à Marseille au Panier, que ce soit aussi dans des formes itinérantes sur le Quéra. Bon, mais pareil, le Festival Avignon, on s'installe, on met du temps. Bon, on met du temps, on arrive à vendre. Si le spectacle est bon, de bonne facture professionnelle, on arrive à vendre. Peut-être pas 100 dates, mais on arrive à vendre 15-20 dates. Il y a du public, il y a tout ça. Bon, mais il faut bien se préparer. Hein. Il faut bien se préparer à faire Avignon. Donc c'est une vitrine, parce qu'il n'y a pas que les ventes, il y a aussi tout le métier qui vient vous voir. Et puis c'est aussi un formidable échange. Moi, j'ai connu des gens sur Avignon, j'ai fait des rencontres sur Avignon, et c'est un vrai échange, tout le métier est là. Donc, je veux dire, c'est là qu'on peut se retrouver aussi, tout ça, à un moment donné, et avoir des projets artistiques, je dirais même syndicalistes, puisque moi aussi, je fais partie du CINAVI, donc des syndicats des compagnies. Donc, c'est important aussi qu'on puisse se retrouver là-dedans.
Si à Avignon, il ne faut pas faire de coups COUPS, néanmoins Avignon a un coût COUT, est-ce que c'est un coût qui est en augmentation ? Le prix de location des espaces est quand même assez considérable et peut être un obstacle pour de très nombreuses compagnies, petites compagnies notamment.
Alors, en tant que compagnie, moi, je vais dire un truc, c'est que qui a commencé à faire des prix très, très, très forts ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours une compagnie qui a accepté de... Bon, Dès que ça commence à marcher, la compagnie a intérêt à louer son théâtre. C'est aussi ça. Attention, la location des lieux d'Avignon, des lieux, je dis bien lieux, ce n'est pas que la faute des théâtres. C'est pas que la faute. Enfin, c'est aussi une relation qui s'est faite entre les compagnies et les théâtres. Il faut pas taper que sur les théâtres par rapport à ça. Hein. Parce qu'évidemment, je le redis parce que c'est important, c'est économique. Dès que ça commence à marcher, la compagnie, elle préfère faire la co-réalisation. Bon. De plus en plus, on a des règles. Moi, je sais que j'ai commencé le Festival d'Avignon où on était, les comédiens étaient en autoproduction. C'est nous qui sommes en autoproduction. C'est comme dans le cinéma, en participation. Aujourd'hui, moi, je paye mes comédiens pour le mois d'Avignon. Je les paye au tarif syndical. Bon, grâce à ça, j'ai sûrement des aides comme la DAMI ou la SPEDIDAM. Mais ça aussi, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il y a plus de règles. Donc, évidemment, on doit payer les gens normalement.
Quelle est votre relation à la ville d'Avignon ?
La relation à la ville d'Avignon, il n'y a pas eu de rencontre officielle entre le festival Avignon Festival et Compagnie et la ville d'Avignon. Comme il n'y a pas eu non plus de rencontre officielle entre Avignon et entre le conseil général du Vaucluse et Avignon Festival et Compagnie. Il y a eu une grosse réunion qu'on a organisée avec la région. Bon, ce sont des relations assez compliquées, je pense, avec la ville d'Avignon. Moi, je suis monté au créneau là parce que je voudrais qu'on rencontre les services très très rapidement. Moi, je suis plus sur du pragmatisme que sur du politique là. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour les affiches ? Moi, je suis pour que les affiches restent sur Avignon, je peux le dire, mais il faut savoir. Bon, il y a eu un bug. Les compagnies, nous, normalement, c'était toujours le 1er juillet qu'on affichait. Donc, où il y a eu une date le 5 juillet. Donc, on s'est préparé pour le 5 juillet. Mais ça a encore changé. Donc, le planning des comédiens. Parce qu'évidemment, c'est les comédiens qui affichent sur Avignon. Nous, on n'a pas les moyens d'avoir des afficheurs pros. Alors qu'il y a des grosses productions parisiennes qui les ont, évidemment. Parce qu'il y a aussi ça sur Avignon. Mais, il y a ça. Il y a voir les parades. Comment on cadre les parades. Que des gens se fassent pas embarquer. Nous, on a reçu tous un mail de quelqu'un qui s'était fait embarqué par la police un peu méchamment, donc on était aussi en train de travailler là-dessus avec les services d'Avignon. Voilà, moi j'essaie de voir une vraie réunion avec les services, donc de voirie, de tout ça. Mais pour l'instant, le rapport il est là. Marie-Josée Roy a un bon regard sur son festival Off d'Avignon, parce qu'elle sait très bien, que c'est une manne économique et financière, et que le IN a quand même des difficultés. Je sais pas, mais le IN quand même a des difficultés sur deux ordres. La première chose, c'est que est-ce qu'à un moment donné, le IN va pas réduire sa voilure par rapport à... Parce que l'État réduit sa voilure en culture, hein, parce que ce gouvernement réduit sa voilure partout, sur la recherche, sur le social, sur la culture, sur la démocratisation culturelle qui a quand même qui a fait des coupes sombres. Et je pense qu'à mon avis, le Festival d'Avignon va morfler aussi, comme on dit chez nous. Et puis il y a peut-être ce problème aussi, la crise économique avec Dexia, qui est la banque. Dexia est la banque des collectivités territoriales, mais c'est aussi la banque du Festival d'Avignon. Si elle a difficulté, elle redira sa voilure sur le Festival IN, et donc moins de temps.
Qu'est-ce qui fait cette relative absence de dialogue que vous évoquez entre le festival OFF et la ville? C'est une raison politique?
Je ne crois pas que ce soit une raison politique. Je ne pense pas, non. Je ne sais pas. Je me pose la question. Je sais qu'il y a des gens, par contre... les gens sont reçus individuellement par Marie-Josée Roig. Les théâtres d'Avignon sont reçus, peuvent rencontrer Marie-Josée Roig individuellement. Il y a des gens dans le conseil d'administration qui peuvent la connaître. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas une barrière, il n'y a pas une grosse difficulté. Moi, j'ai fait une demande, voir si on peut rencontrer. Mais je voudrais aussi rencontrer le conseil général du Vaucluse, hein, parce que pour moi, le festival d'Avignon, c'est pas uniquement la mairie d'Avignon, c'est aussi le festival du Vaucluse. Bon, la région, on l'a rencontré, mais c'est aussi le conseil général du Vaucluse. Voilà.
C'est quand même étonnant qu'un festival qui contribue à apporter une manne économique que vous citiez et qui est considérable à la ville ne débouche pas sur un dialogue permanent, pas uniquement au moment du festival, mais à l'année, en permanence, entre les compagnies et la ville d'Avignon.
Oui, les compagnies, les théâtres et la ville d'Avignon. Ce qu'on pourrait se dire, de toute façon, je pense que c'est un peu dans les tuyaux de rencontrer officiellement. On est en pourparler, ça va être voté à la prochaine Assemblée Générale courant novembre, on est en pourparler de créer un troisième collège, ce qu'on pourrait appeler un collège de personnalités sur Avignon Festival et compagnie. C'est un collège, non pas de place de droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire une place pour le Conseil Général, une place pour la région, une place pour la ville. On dira à des gens de venir dans ce collège. Bon, sûrement, il y aura sûrement quelqu'un représentant de la ville. C'est évident, il faudra bien passer par là. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que la ville d'Avignon sente bien qu'il y a deux festivals. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Il y a bien deux festivals. Il y a le festival G-In, même si Hortense Archambault dit que c'est le festival d'Avignon. Mais voilà, mais il est ce qu'il est. Le OFF s'est créé. Le OFF, depuis cette année, grâce au décalage de date qui a été beaucoup décrié, a quand même pris son autonomie. Et je reviens là-dessus. On a pris notre autonomie cette année parce qu'on se dit... Parce qu'on se dit, mais à un moment donné, attention, si le IN réduit sa voilure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le OFF, on va faire que 15 jours? Non, nous, on s'est entendu la dernière fois sur le conseil d'administration, le festival OFF d'Avignon doit rester sur 3 semaines, 20-21 jours, c'est un bon chiffre, c'est un chiffre qui va aussi dans le sens avec l'ADAMI, qui est une société civile qui subventionne les compagnies sur Avignon au-delà de autour de 20 dates. Voilà, et c'est important parce que c'est un moment aussi où les compagnies peuvent jouer 20 fois d'affilée. Ça, c'est, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se fait. Bon. Donc il ne faudra pas que nous on réduise cette voilure-là. Parce que d'un coup, là, on sait que la rentabilité se fait sur ces 20 dates-là.
Il y a deux festivals en Avignon, mais il y a aussi deux villes en Avignon. Celle qui est dans les remparts et celle qui est hors les murs. Est-ce que les lieux de programmation du festival OFF vont aussi investiguer dans des quartiers, dans des cités, dans des lieux de la ville qui ne sont pas forcément très favorisés d'un point de vue culturel?
Ah ouais, je sais bien, je me pose la question tous les jours parce que moi... étant originaire d'un quartier dit favorisé qui est le Panier à Marseille et ayant fait un gros travail là-dessus, puis après on a bossé sur d'autres cités dans Marseille, c'est pas nous le travail qu'on fait sur Avignon. C'est vrai que nous le travail sur Avignon, on fait notre métier sur Avignon, on essaie de vendre nos spectacles, on essaie de se faire connaître. Après, moi je pense que ce que vous dites là, je pense que ça peut être un travail qui est fait avec la région, la ville et le conseil général, pour essayer de sortir un petit peu des choses du... Je pense que le HIN devrait plus le faire. Je pense que c'est la mission du HIN. C'est la mission ministérielle, c'est la mission régalienne de l'État de faire ça, de travailler là-dessus. Mais malheureusement, l'État, là où elle a cassé, c'est sur la démocratisation culturelle. Donc évidemment, je la sens pas faire ça. Donc qui c'est qui va se retrouver le bébé? Ce sont les régions, ce sont les collectivités territoriales qui vont devoir faire ça. Bon. Après, il y a des choses qui se créent, parce qu'on sait très bien, tout le monde se le dit, le festival d'Avignon Off, c'est intramuros, les choses se passent dans les murailles. Il ne se passe pas grand-chose, on voit très bien qu'il y a deux villes. Je suis complètement d'accord qu'il y a deux villes d'Avignon. D'ailleurs, pour moi, j'ai dit en Avignon dès que j'ai pensé les remparts, et je dis à Avignon dès que je suis ailleurs. Bon, mais il y a des choses qui se créent, peut-être petit à petit, on va aussi penser à ça, mais... On a Villeneuve-les-Avignon qui se crée de l'autre côté. Nous, on a créé une mini-rencontre. C'est pas un festival. Le mot festival, c'est une mini-rencontre. J'ai appelé ça Off in Neuve. Neuve est un petit village des Bouches-du-Rhône qui touche Avignon. Et puis il y a d'autres choses qui sont prévues dans le Vaucluse, de s'étendre un peu autour, de trouver des choses qui se passent autour. Et quand on dit autour, ça peut être aussi autour des remparts, c'est-à-dire dans les quartiers. Mais nous, on va avoir beaucoup de difficultés, le HOF, à le faire, sauf si autour d'une table, des gens nous le demandent.
En 2003, le Festival d'Avignon avait été symptomatique d'une grave crise qui affectait le secteur de la culture et l'objet, à ce moment-là, d'un ensemble de débats et de réflexions. Est-ce que aujourd'hui, quelques années après, le Festival d'Avignon, in et off confondu, reste un lieu de débat d'idées ?
Nous, c'est un peu ce qu'on a voulu cette année, puisqu'on a fait, beaucoup de colloques. C'est sûrement un débat d'idées. Je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dessus, mais sur du pragmatisme. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse, qu'il y a un grand lieu de débat. Nous, on a fait les états généraux du HOF en décembre. C'est important aussi, je pense, et moi, je suis vraiment favorable. Je dirais que mon rêve, mon utopie, c'est que le HIN et le HOF organisent des débats ensemble.
Précisément au mois de novembre, un contre-forum de Davos est supposé être organisé en Avignon. Est-ce que vous allez y participer ?
Non, c'est pas un contre-forum de Davos, c'est pas ça, c'est comme à Davos, je crois. En fait, c'est un forum sur la culture qui va se passer exactement le 16, 17 et 18 novembre. On n'a pas été invité.
Est-ce que vous allez vous inviter ?
Bien sûr. Moi, j'ai demandé au bureau, on est en discussion par rapport à ça. D'ailleurs, pour tout dire, on avait même positionné plus ou moins notre Assemblée Générale sur ces dates-là. On se pose la question, est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on la dévie et on va à ce forum? Voilà, donc on a toutes ces questions. Mais, je le redis, on n'a pas été invité.
Merci Frédéric Mulle. Écoutiez In Off Out, une émission sur la place du Festival de théâtre dans la vie culturelle avignonnaise, dans laquelle vous avez entendu Hortense Archambault pour le In, Mustapha Awar pour le Out et Frédéric Mulle pour le Off. Demain 9 novembre à 14h, la suite de nos émissions spéciales sur Avignon en partenariat avec le journal Le Ravi. Après le théâtre, Célia Pascaud s'intéresse aux autres formes de création contemporaine en Avignon et à la dimension européenne des projets, 8 ans après le label de capitale culturelle de l'Europe qu'Avignon avait obtenu en 2000. Retrouvez un dossier complet sur la vie sociale, politique et culturelle d'Avignon dans le journal Le Ravi, en kiosque depuis le 6 novembre.
Comparer les temps de calage par rapport au temps de tirage, c'est plus impressionnant que le restant, quoi, finalement. Parce que...